je fais faire des vision boards juste pour avoir de l'inspiration, mais au final, si tu mets pas un pied dehors et si tu ne te jettes pas à l'eau, ça ne sert à rien. Il se passera absolument rien.
Dans cet épisode, je rencontre Emmanuelle Gaillardi, qui accompagne les femmes à pulvériser le plafond de verre depuis 20 ans. Elle m'accompagne sur mon chemin entrepreneurial. Je la vois du reste ce week-end à un événement qu'elle organise. Ça t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé mon chemin pour rebondir après avoir quitté la vie monastique. Dans cet épisode, Emmanuelle te partage quelques clés importantes pour pulvériser le plafond de verre et l'importance de s'intéresser à l'argent pour une femme, ainsi que d'être en réseau. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Buen camino. Bonjour Emmanuelle.
Eh bien, bonjour Cécile.
Ça fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Comment vas-tu?
Magnifiquement bien, on démarre une nouvelle ère, une nouvelle année, donc plein de projets et d'objectifs à la clé, donc c'est top.
Super. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, Emmanuelle, après une carrière dans le marketing, si je ne m'abuse, tu me corrigeras si c'est faux, tu t'es mis à ton compte en te tournant vers l'accompagnement des femmes comme coach d'affaires, on dirait au Québec, coach business, on dit en France. Ton but étant de permettre aux femmes de pulvériser le plafond de verre, PPV, c'était trois lettres, que ce soit par le développement d'un side project, donc développer une activité à côté de leur travail pour les femmes qui sont plus salariées, pour avancer vers l'entrepreneuriat, mais en sécurité, puis gagner en liberté financière, soit quand elles sont cadres, dirigeantes, en leur permettant de vraiment prendre pleinement leur place et pas rester limitées par elles-mêmes ou par le contexte. Donc, qu'est-ce que tu as envie de rajouter de
Juste
perso
mettre
à ton...
un peu plus de perspective parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça. Ça fait presque 20 ans, tu te rends compte?
Waouh,
Je
waouh,
suis
waouh.
tombée dans, sur le, je me suis cognée au plafond de verre il y a 20 ans. Et en fait, j'ai toujours suivi cette trame-là, ce fil rouge-là du plafond de verre. Et la première réaction que j'ai, et pour montrer qu'on peut suivre une trame et la dresser de façon différente, et de façon à se renouveler en permanence. Chacun puisse trouver sa trame aussi, c'est important. Et donc moi, j'ai trouvé le plafond de verre, je me suis cognée à lui parce que j'ai découvert les réseaux de femmes en fait en 2006. Et un
D'accord.
réseau de femmes se crée quand il y a un plafond de verre. Et c'est là
D'accord.
que j'ai découvert l'existence même du plafond de verre, je n'en avais aucune idée avant. Et puis après, donc là, j'ai fait un livre, un guide sur les réseaux de femmes en France qui est paru en 2007. Donc c'était ma première pierre à l'édifice. Sur ce sujet-là. Puis après, du livre, j'ai fait un magazine pour aider les femmes à réussir, donc toujours sur le plafond de verre. Puis après le magazine, j'ai fait un forum, le forum de la mixité, toujours sur le plafond de verre aussi, mais la mixité au sens large. Et puis après, j'ai fait des plans de formation en entreprise, essentiellement les grosses entreprises. Et ben là aussi, c'était une nouvelle façon d'adresser le plafond de verre. Et puis après, ces plans de formation, je les ai digitalisés, puisqu'ils étaient en présentiel. Je les ai digitalisés, donc en 2017. Et donc voilà, c'est une nouvelle façon de l'adresser à un plus grand nombre encore. Et puis, dernier outil que j'ai sorti de ma boîte à outils, c'était le coaching personnalisé. Mais ce qui est important, c'est de voir voilà, toute cette progression et tous ces arsenaux d'outils que j'ai déployés depuis 20 ans. Et j'espère, oui, j'espère y voir la fin avant la fin de mon passage sur Terre, voilà, qu'on parle plus de plafond de verre et qu'on passe à autre chose, quoi.
Qu'on puisse être pleinement voilà, intégré sans plafond. Bon, des fois, c'est bien d'avoir un plafond quand il fait un temps comme ça, mais
Ouais.
pas le plafond de verre. Bah, c'est une de mes questions, c'était justement sur les réseaux, parce que justement j'allais en parler de ton livre sur les réseaux. Qu'est-ce qu'apporte justement ce lien avec d'autres femmes? Là, tu viens de dire apporter une chose importante, c'est que finalement les réseaux de femmes se créent quand il y a un plafond, donc je trouve ça intéressant déjà. Est-ce que tu peux creuser un petit peu ça, dire en quoi cette sororité, toi, t'ont aidé? Parce que là, ça a l'air d'être le cas, et aussi comment ça, tu vois que ça aide aussi les femmes que tu accompagnes, quoi.
Moi, les réseaux, je les ai rencontrés, donc on se projette, ça ne rajeunit pas tout ça. On se projette, en tout cas moi, donc en 2005-2006, j'ai rencontré les réseaux de femmes parce que je n'arrivais pas à trouver un travail venant des États-Unis après avoir passé 3 ans sans avoir pu travailler aux États-Unis. J'avais une césure de 3 ans. Eh bien, je n'arrivais pas à retrouver un job de salarié en France.
Ah
Et
oui.
donc, on m'a dit, non, Emmanuel, au niveau direction marketing, c'est pas une annonce qui, c'est les réseaux, c'est l'emploi caché. Donc, il faut que tu regardes les réseaux. En regardant les réseaux, je suis tombée sur les réseaux de femmes. Et je me suis dit, et j'ai découvert le truc, je ne m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles font? Mais pourquoi il y a des réseaux de femmes? Et donc, c'est là où j'ai creusé et j'ai compris, voilà, ce qu'elles faisaient. Donc, globalement, et leur tâche qui est aujourd'hui encore est essentielle, parce que moi, aujourd'hui, je veille encore 500 réseaux de femmes et ça ne cesse de croître. Donc, c'est incroyable. Je compte faire un prochain rassemblement de réseaux de femmes. Je compte en faire un cette année et je pense
Super.
que je suis en train de me dire, mais quelle salle va vouloir
Les te
qu'on
contenir.
rassemble les réseaux, les présidentes, les trésorières, etc. Ça va être juste dingue. C'est pas une bonne nouvelle hein, que les réseaux de femmes se créent. Ça veut dire qu'il y a des problèmes en vrai. Hein.
D'accord.
Oui, c'est des bonnes nouvelles de sororité parce que, effectivement, pour répondre à ta question, bah, les réseaux de femmes, déjà, c'est pour se dire, bon, je suis pas toute seule. Voilà. Mon cas, c'est pas juste moi, c'est pas moi qui ai un problème. Non, c'est que c'est l'environnement qui n'est pas favorisant, on va dire. Et que voilà, le problème auquel je m'expose en ce moment, bah, il y en a plein d'autres qui l'ont. Et c'est top, comme ça, on va pouvoir déjà se partager et déculpabiliser. Donc, ça, c'est vraiment un gros fardeau qu'on dépose sur le bord de la route pour continuer à avancer. Ensuite, les réseaux de femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font beaucoup d'inspiration en faisant venir justement des gens qui disent non, mais c'est possible, des mentors en gros, qui montrent que le chemin est possible et qu'il ne faut pas se décourager à mi-chemin, il faut continuer sa route. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis après, les réseaux de femmes, elles sont aujourd'hui, hein, parce que quand je te parle de 500, ça commence à faire beaucoup de monde en réalité, ça commence à faire beaucoup de femmes. Donc, il y a les femmes salariées, il y a les femmes entrepreneurs. Je ne parle même pas des associations de femmes sur la précarité, etc. Là, on est juste dans l'univers professionnel. Donc, 500 réseaux de femmes dans l'univers professionnel, que ce soit salarié ou entrepreneur, ça fait un paquet de monde. Donc, il y a aussi cette force de lobbying, tu vois, qui est extrêmement importante. Et dès qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ou avec lesquels on n'est pas d'accord, ben maintenant, les réseaux de femmes sont capables aussi de se mobiliser, de se dire, non, non, là, cette loi-là, on n'est pas d'accord. Là, il faut des avancements. Donc, ça fait aussi une force, tu vois, de politique incroyable. Et ça, c'est génial de savoir que c'est comme une vague, voilà, chaque gouttelette et chaque femme participe au tout. Et bon, moi, je suis convaincue que, tu sais, les femmes sauveront le monde. Donc voilà, je suis ravie de voir cette sororité et tous ces réseaux qui se tiennent la main. Et voilà, et j'œuvre à mon niveau pour que chaque réseau se connecte à un autre, tu vois. Parce qu'il y a encore il y a plein de réseaux, évidemment, qui ne se connaissent pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un guide que j'ai réédité 3 fois, dont le dernier en date chez Erol. Et même dans mes programmes, moi, je ne supporte pas, même si c'est pour certains des programmes en ligne, pour moi, l'entraide, elle est fondamentale. Et toujours, toujours insérer de l'entraide dans mes programmes. Il est hors de question qu'on laisse quelqu'un sur le bord de la route en se disant je m'en sors pas, j'y arrive pas, pourquoi ça m'arrive? Non, non, non. C'est tout le monde se prend la main et on y arrive ensemble, quoi. Et c'est cette force-là qui fait qu'on va réussir à changer les choses, à transformer la société, à la rendre peut-être plus humaine, tu vois, et Et je pense que les femmes ont ce rôle-là à jouer pour les décennies qui viennent, ouais, c'est clair.
Je ne peux que souscrire. Je suis bien d'accord. Même voilà, j'ai suivi hein, donc le programme d'Emmanuel pour l'entrepreneuriat et je dois dire voilà que les liens qui se sont créés là dans un autre épisode on a un interview à trois avec Flavie et Christelle. Bon, ben, on a toutes les trois été accompagnées par Emmanuel et ces liens qui se sont créés, ben, c'est grâce justement au fait que même quand tu faisais des journées en présentiel. Eh ben, tu vas nous mettre par deux ou par trois et qu'on ait un regard sur l'autre. Et voilà, c'est une pédagogie qui fait que justement, on s'entraide déjà. C'est-à-dire que le fait d'avoir du feedback sur, ah bah oui, tu dis ça, mais non, ou bien au contraire, le chemin de Compostelle, c'est venu grâce à un atelier que j'ai vécu avec toi. C'est-à-dire, moi, j'aurais jamais pensé à mettre ensemble le chemin de Compostelle que je faisais et le coaching. Et c'est en fait des retours en disant bah, avec ton parcours, il faut que tu fasses un truc sur Compostelle. Et je dis bah, j'adore Compostelle en plus. Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, c'est vrai que ce feedback et cette aide mutuelle est vraiment importante et créatrice, quoi.
Et tu vois, hier, j'étais invitée à une rencontre de réseau de femmes, donc c'est tout frais hier soir, et on se disait que un des sujets, un phare primordial, vraiment pour l'année à venir, c'était l'indépendance économique des femmes, tu vois. Et donc là, je suis contente parce que du coup, on est en plein dedans. Et pour moi, tu sais, dans le plafond de verre, il y a le dernier bastion du plafond de verre, qui est le plafond de verre financier, en fait. Et celui-là, c'est le plus retors, c'est le plus difficile, et il se niche à tous les niveaux. Tu peux être en haut de la pyramide et avoir quand même un plafond de verre financier. Donc celui-là, moi j'ai fait une intervention là-dessus au Zénith en 2020, justement, juste avant le confinement, et ça a déchaîné beaucoup de réactions, à la fois certaines extrêmement positives en disant yes, enfin on parle d'argent librement, ouvertement, cash on va dire, et puis en même temps des réactions hyper pas violentes mais disons mitigées, dans le sens mais il n'y a pas que l'argent,
C'est ça. C'est comme
il
si
y a
j'étais
d'autres choses
sale.
dans la vie, voilà c'est ça. Et donc c'est intéressant parce que justement l'argent cristallise, bah, tout notre vécu, hein, tout ce qu'on a emmagasiné comme casserole, on le remet dans l'argent et ça explose comme ça. Et donc moi j'adore traiter en particulier le plafond de verre financier. Il y a tout un mois consacré à ça dans les programmes pour les salariés, et pour celles qui sont entrepreneurs, on le traite aussi évidemment dès qu'il s'agit de eh bien de connaître la valeur de ses offres et de se positionner sur un marché, etc. Donc c'est éminemment important. Et voilà, c'est un sujet que je suis super ravie de partager avec toi parce que ça, c'est le sujet de l'année, quoi.
Enfin voilà, moi j'ai voulu commencer l'année avec ça parce que je le vois, voilà, en écoutant, en parlant avec d'autres femmes, que c'est un peu le sujet numéro un qui concerne tout le monde en fait. Hein, donc et je me souviens une fois tu nous avais partagé que tu avais demandé dans une grande entreprise, il y avait des hommes et des femmes et qui bah, avaient un placement financier, avaient des placements financiers, et qui avaient investi dans l'immobilier et que est-ce que tu peux nous raconter ça parce que je trouve que c'est important comme exemple.
Ouais, alors moi je fais créer des side projects même à celles qui sont salariées, donc c'est-à-dire des side projects, des side business, c'est-à-dire en dehors de la source de revenus principale des salariés qui est eh bien le salaire, je demande à ce qu'il y ait d'autres sources de revenus. Et donc pour celles qui n'ont pas forcément d'immobilier, ou même celles qui en ont, on peut créer encore une troisième source de revenus. Donc, le plus facile, on va dire, c'est le side business, le side project, qui est très, très couru aux États-Unis et assez peu en France. Et donc, quand j'avais fait un atelier sur l'argent dans un groupe dans le nord de la France, et j'avais demandé, c'était un atelier mixte, et j'avais demandé effectivement qui parmi vous a un projet rémunérateur à côté de son job de salarié. Et donc là, les femmes m'avaient regardé avec des yeux ronds et un peu ahuris, dans le sens, bah, évidemment que non, puisqu'on est salarié. Et là, oh, je dirais 80, 10% des hommes avaient levé la main en se disant, bah évidemment. Et donc, c'est ça aussi, moi, je me dis aux femmes, et d'ailleurs, bien souvent, on voit même des femmes qui ont, alors, pour, par exemple, celles qui sont salariées, qui ont des fonctions hyper haut, élevées dans l'organigramme et qui s'occupent absolument pas de leurs finances, quoi. Donc, et qui, du coup, laissent filer comme ça ou laissent cette partie-là à leur conjoint. Et bon, alors, quand le couple va bien, ben, ça se passe pas trop mal, mais une fois que s'il y a des problèmes de couple, c'est là où elles découvrent que leur lacune considérable sur cette thématique-là, et donc elles doivent s'y plonger, mais là, au pied du mur. Et c'est dommage parce que les finances, enfin, moi, je suis beaucoup entourée d'adolescents que j'essaye aussi de. D'ailleurs, dans mes événements, les adolescentes sont bienvenues, hein, et il y en a qui viennent, parce que j'essaye, voilà, dès le plus jeune âge, de faire comprendre le cheminement de l'argent. Alors, et l'argent, c'est un vaste sujet. Au-delà du plafond de verre, il y a quand même pas mal de skills différents dans le cheminement de l'argent. Il y a le fait de savoir l'attirer, ça, c'est un skills. Le deuxième, c'est savoir je dirais le retenir, le conserver, l'épargner. Ça, c'est un autre skills. C'est pas le même que le premier. Et le troisième, c'est parce que ça suffit pas, ça, c'est savoir l'investir. Et ça, c'est encore un autre skills. Donc il y a vraiment trois enseignements différents qu'on a à apprendre sur l'argent. Alors l'attirer. Bon, moi je le traite dans mes programmes, mais alors d'emblée sur les femmes, ce que je peux dire, l'attirer, c'est qu'elles savent le faire pour les autres en fait. Quand c'est l'attirer par exemple pour leurs équipes ou l'attirer pour une cause ou l'attirer pour voilà, quand il y a quelqu'un à défendre et qu'il faut lever des fonds, ça elles savent l'attirer pour autrui, mais l'attirer pour que ça tombe dans leur porte-monnaie à elles. Ça, c'est plus difficile. C'est là où on déconstruit tout ce qui a fait qu'il y a eu des blocages par rapport à l'argent, qu'il y a eu des blocages par rapport à certains montants, etc. Donc ça, c'est sur l'attirer. Ensuite, le garder, ça aussi, je le traite parce que finalement, une fois que tu l'attires, tu peux te débrouiller pour qu'à la fin du mois, tu n'aies plus rien. Hein. Ça, c'est assez courant. C'est assez courant, Cécile, que des femmes me disent, mais je comprends pas. En fait, tu m'as appris à gagner de l'argent, c'est bon, mais
J'ai plus rien, je n'ai
en
pas
vrai,
plus quoi.
ça part, je ne sais pas où ça part, tu vois. Et donc, si tu l'attires, mais qu'à la fin du mois, tu en as plus, c'est comme écoper une barque avec un trou, tu vois. Bah, c'est le truc, ça s'arrête jamais. Tu t'épuises, et tu vois, c'est un peu le petit hamster dans sa roue, quoi. Il peut tourner longtemps comme ça. Hein. Et donc tu vois, bah voilà, tu gagnes, tu épargnes, et puis non, tu gagnes, tu dépenses, et tu regagnes, et tu dépenses, et voilà, c'est le truc qui s'arrête jamais, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Et moi, je le vois extrêmement souvent. C'est pour ça que je partage. Ça veut pas dire que tu as un bon salaire ou que tu as des bons revenus de ton job d'entrepreneur, que tu sais garder, tu vois, tu peux te débrouiller en fonction des croyances que tu as intériorisées, qu'il te reste plus rien parce que tu n'es pas à même de garder autant d'argent, tu vois. Donc, tu te débarrasses finement pour qu'à la fin, il n'y en ait plus. Donc, ça, c'est la deuxième composante. Et puis après, donc celle-là, je la traite avec les programmes. La troisième, je ne la traite pas encore, mais il va falloir parce que investir, tu vois, tu peux pas, l'argent, tu ne peux pas le garder comme ça, comme un petit écureuil. Il faut apprendre à le faire fructifier, apprendre les effets composés, apprendre. Voilà. Et puis, en plus, aujourd'hui, ce n'est pas comme s'il y avait une pénurie d'argent, tu vois. Jamais autant imprimé d'argent que c'est hallucinant quand tu y penses. 2023, je crois qu'on n'a jamais autant imprimé. La Fed et la Banque Centrale Européenne n'ont jamais autant imprimé, disons, que ces deux dernières années, tu vois.
Ouais.
Donc l'argent, on en a à foison,
Ouais.
ça circule à foison. C'est juste le fait de te dire, OK, je prends ma part, je garde ma part
Ouais.
et je fais fructifier ma part, tu
Ouais,
vois.
c'est ça. Et sur cette partie-là, alors je sais bien que tu le fais pas en tant qu'accompagnante encore, comme tu dis, mais voilà, aujourd'hui, par exemple, 2023, 7% d'inflation et un livret A à 3%, on voit qu'on perd de l'argent, même avec de l'argent sur un livret A qui est soi-disant sécurisé. Donc, est-ce que toi, tu as investi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait justement pour toi-même?
Bah, moi, de toute façon, déjà, je dis, il faut jamais avoir les œufs dans le même panier. Donc, ne serait-ce que pour ta source de revenus, donc on a bien compris, si tu es salarié, tu investis pour avoir d'autres sources de revenus. Si tu es entrepreneur, et tout. Mais j'ai envie de dire, alors chez les entrepreneurs, c'est peut-être plus systémique, tu vois, de se dire, OK, comme on sait qu'on est un peu sur des montagnes russes dans l'entrepreneuriat, on est quand même, on se dit, oh là, va falloir passer des billes à droite à gauche. Donc, mais en gros, entre l'immobilier que tout le monde, alors surtout si on est salarié, ben, c'est quand même la voie royale, l'immobilier, parce que les banques prêtent quand même largement aux salariés. Donc là, tu peux pas être salarié et pas avoir d'investissement immobilier. Après, ce que tu fais derrière, est-ce que c'est de l'achat-revente, de l'achat-location, de l'achat-location court terme, de l'achat-location long terme, l'achat-colocation, enfin, les possibilités sont vraiment pléthores, mais je veux dire, c'est la première chose à avoir en tant que salarié. Après, en tant qu'entrepreneur aussi, un investissement immobilier. En général, on déconseille de mettre justement, d'immobiliser son capital dans sa résidence principale et plutôt d'investir son capital dans une résidence que tu peux louer, qui devient un asset et pas un débit, en fait, pas une charge, en fait. Bon, alors après, au-delà de l'immobilier, la bourse, alors moi, je n'ai pas encore créé de programme, hein, même si il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour créer un programme sur l'investissement, mais sur la bourse, de tout ce que m'ont dit les spécialistes aujourd'hui, c'est que ça va se gameler, donc il faut attendre que ça se gamelle. C'est toujours pareil, la bourse faut être au bon endroit, au bon moment. Bon, soit tu es Warren Buffett et tu attends pendant 50 ans et sur les 50 ans, le truc se passe bien. Soit tu as envie que ce soit un peu plus dynamique. Et sur ton âge, tu n'es pas forcé aussi de suivre la même trajectoire et les mêmes conseils que Warren Buffett. Donc, la bourse, bon, voilà, faut acheter au bon moment. Peut-être plus des indices que des sociétés sur lesquelles tu ne sais pas forcément si elles vont se relever ou pas. Mais. Donc là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on demande d'attendre un peu les investissements en bourse. Et par contre, après, tu as des investissements, donc en général immobilier et bourse, mais pas bourse en termes d'investissement, pas en termes de trading, où là, tu fais de l'achat-revente un peu compulsive qui là est réservée quand même à des experts. Mais sur la bourse, bon, ça reste assez sécure sur une période de 8-10 ans. Et puis après, le plus, voilà, si on est joueur, et moi je suis joueuse, mais dans un cadre. Donc, bon, ben voilà, on a évidemment le grand sujet des cryptos. Mais là, il faut. Et ben oui, c'est sûr qu'on ne va pas y dédier ni 100 ni 50% de son capital, mais voilà, les 10-15% qu'on peut se permettre de perdre si ça se passe mal et qui peuvent aussi très bien exploser à la hausse, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, je crois qu'entre l'immobilier, la bourse et les cryptos, on a de quoi s'amuser quand même.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Je dis s'amuser parce que. Moi, de toute façon, que ce soit l'argent ou la vie en général, je le prends globalement comme un jeu, tu sais. Parce que si on prend ça trop sérieusement, on risque d'avoir pas mal de déconvenues. Donc, l'idée, c'est de prendre ça comme un jeu et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on propose comme challenge ce mois-ci ou voilà, cette année-là, et de relever les challenges et de voir quelle personne je deviens en relevant ces challenges. Et c'est ça qui est important au final, c'est que tout ça, c'est du développement personnel slash spirituel, et c'est de s'observer et de voir qui on devient à travers tout ça.
Et justement, de tout ton parcours là, parce qu'il y a eu 20 ans, voilà, depuis 20 ans en tant qu'entrepreneur, avant tu avais aussi bah, t'as eu plusieurs vies, quoi, on va dire. De quoi tu es le plus fier en fait? Et ça peut être plusieurs choses. Hein.
Le plus fier, moi je suis le plus fier d'avoir à chaque fois adressé un univers que je connaissais absolument pas, tu vois. J'ai fait ça à chaque fois en fait. Quand j'ai commencé à l'envers, j'ai écrit un bouquin au début de ma carrière d'entrepreneur, tu vois. Alors que normalement, tu
La
réalises
fin.
deux, trois trucs et puis tu te dis, bon, je vais peut-être mettre ça dans un bouquin. Moi j'ai fait l'inverse. Je connaissais pas le monde de l'édition, je connaissais pas d'éditeur. Je me suis dit, tiens, j'ai un sujet. J'ai envie que le plus de monde possible connaisse les réseaux. Comment on fait un bouquin? Bon, bah alors voilà. Et je me suis toujours, j'ai toujours pris les choses avec cette réflexion-là. Après, je me suis dit, bon, à l'époque, les magazines féminins adressaient pas trop les histoires de carrière, d'entrepreneuriat. Je dis pas trop, mais en fait, c'est pas du tout. Je me suis dit, bon, allez, on va faire ce qu'il n'y a pas, quoi. Donc, j'ai créé un magazine, voilà, avec une régie qui m'accompagnait pour vendre des pages de pub. Enfin, voilà. Et je connaissais rien au monde de l'édition, tu vois. Et puis après, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de faire de l'événementiel parce que les gens me demandent à se rencontrer. Je connaissais rien, mais rien à l'événementiel. Et j'ai fait le plus grand forum de la mixité en France, tu vois. Et je suis toujours arrivée avec cette fraîcheur. Mais en fait, après, j'ai fait des formations, je ne connaissais rien aux formations. Et quand j'ai digitalisé, on me disait, Emmanuel, il faut que tes formations en ligne durent 3 minutes, sinon les gens perdent de l'attention. Et moi, j'ai fait des trucs qui durent, chaque module dure 40 minutes, 1 heure, tu vois. Donc, parce que je me disais, mais c'est n'importe quoi, c'est débile, non. C'est pas des astuces que je vais donner, c'est des vrais outils de transformation. Donc je vais pas le faire en 3 minutes, c'est n'importe quoi vos trucs. Donc j'ai jamais suivi
Les cases,
les règles de l'univers dans lequel je débarquais. C'est pour ça peut-être que du coup j'ai réussi à me disrupter à chaque fois, tu vois. Et j'ai toujours suivi, je me suis toujours fait plaisir en disant j'ai envie de faire ça, ben je le fais. Tu vois, à un moment, évidemment, quand j'ai digitalisé une partie de mes programmes, ben je faisais beaucoup de webinaires. Tu vois, à un moment, je faisais 2 webinaires par semaine, ce qui était en live, ce qui était énorme, tu vois. Et j'ai fait ça pendant presque 1 an, c'était énorme. Moi, quand je fais les choses, je suis un peu. Tu vois, je fais les trucs à fond, puis après je fais autre chose, hein. Mais donc, et à un moment j'en ai marre, je dis, moi j'en ai marre de faire des webinaires, ça me saoule, donc j'ai fait du théâtre, tu vois, parce que je me suis dit, bon, l'idée de rassembler les gens et de leur faire passer un message, je peux le faire comme je veux, je peux le faire au théâtre, tu vois. Et on m'a dit, mais t'as déjà fait du théâtre? Sinon, enfin, à part des présentations en entreprise, mais j'ai jamais fait de théâtre, tu vois. Et donc, j'ai fait du théâtre et j'ai adoré faire du théâtre. Pour moi, c'était comme si j'étais derrière mon écran, sauf que j'étais sur une scène. En fait, je pense qu'il faut s'écouter, se dire, voilà, quel est l'univers dans lequel j'adore évoluer, et se dire, bon, bah, si ça n'existe pas, moi, je vais le faire à ma façon et on va voir ce que ça donne. Après, bon, que tu échoues, que tu réussisses, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est l'expérience que tu en fais. Et les leçons que tu en ressors, tu vois. Donc, je pense que c'est ça dont je suis fière. Et justement, par exemple, on me dit, moi, je ne sais pas par quoi commencer. Je dis, ben, moi non plus, en fait. Donc, je ne suis pas voyante, tu vois. J'accompagne sur la carrière, mais je ne suis pas voyante. Donc, on va commencer par un truc, tu vois, un peu comme un gamin qui se dit, bon, ben voilà, j'ai envie de commencer à droite là, et puis bon, ben on va voir ce que ça donne. Et à partir de tes premiers pas, moi je vais pouvoir te dire et te dire, ah ben fais plus ça comme ça, etc. Ou si tu me dis, bah non, là tu vois, ce que j'ai commencé, bah ça me plaît pas du tout, ben je dis, bah cool, du coup on fait autre chose, tu vois.
C'est ça,
Mais je pense que rien ne peut remplacer, tu vois, ça sert à rien de prendre des feuilles blanches et de les remplir et de dire, alors moi j'adorerais faire ci et faire ça, etc. Je fais des vision boards Je fais faire des vision boards juste pour avoir de l'inspiration, mais au final, si tu mets pas un pied dehors et si tu ne te jettes pas à l'eau, ça ne sert à rien. Il se passera absolument rien si tu as ton super vision board en face de toi, que tu es dans ton canapé et que tu fais la loi de l'attraction. Tu vois, il se passera absolument rien. Donc, le truc, c'est que et moi, vraiment, je. C'est pour ça que je te dis, j'ai changé à chaque fois et à chaque fois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'y suis allée, voilà, j'y suis allée. Et j'y
Just
suis
do it.
avec mes convictions à moi et pas essayer de copier les autres. Parce que si j'avais copié les autres, bah, peut-être que j'aurais pas réussi ou peut-être que ça ne m'aurait pas convenu. Non, moi, il faut avoir les basiques. Et dans l'entrepreneuriat, en l'occurrence, les basiques financiers, évidemment, tu fais ton petit tableau, mais sachant que ça ne va pas se passer comme prévu de toute façon. Mais bon. Donc, tu fais quand même ton truc pour voir si, mine de rien, ça tient la route. Et puis après, tu y vas, quoi. Et après, tu rencontres 40 000 choses qui n'étaient pas au programme. Et c'est ça qui est cool, tu vois.
Oui, à ça, est-ce que c'est justement le just do it et puis d'une part, donc vraiment passer à l'action, essayer, enfin, qui est important de mettre en place et puis écouter son intuition. Ce que tu me dis, ça me fait penser, enfin, je pense, j'ai une nièce en fait qui était à 13-14 ans, qui allait passer au lycée et qui était angoissée comme tout parce qu'on lui dit en gros qu'il fallait qu'elle choisisse en seconde sa vie, tu vois, toute sa vie. Et je lui dis, mais regarde-moi, regarde tes parents, ils ont chacun eu un premier métier, puis un deuxième métier, toi tu en auras peut-être 10, 15. Commence par quelque chose, quoi. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis là.
Exactement. Et donc, pour l'argent, bah, c'est pareil. Et pour l'argent, je dirais, c'est la même chose que pour la prise de parole en public. Il y a des gens qui me disent, oh, mais moi, je suis terrorisée. Bah, moi aussi, j'étais terrorisée. Moi, j'étais une grande timide. À 15 ans, j'avais des allergies partout parce que j'arrivais pas à m'exprimer, à dire. Je pensais que chaque fois que je disais un truc, c'était idiot et que ça tombait toujours à côté de la plaque. Donc, je me débrouillais à l'école pour baisser, chercher une gomme imaginaire sur le sol dès qu'on disait qui veut passer au tableau. Bon, ben voilà, si tu parles de timidité, je me pose là. Donc, ben, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire différemment. Et en faisant différemment, ben, la timidité, ben, tu fais comme le plafond de verre, voilà, tu le pulvérises et il n'y en a plus. Mais il faut bien commencer par un premier pas, tu vois.
Enfin, il me semble que tu as des filles, si je ne m'abuse.
J'ai une fille, oui.
Voilà, tu as une fille. Comment justement tu lui transmets, parce que tu parlais un peu des jeunes justement que tu invites dans tes événements aussi, comment tu lui transmets ça, voilà, parce que je pense qu'on a un rôle de passeuse, nous, notre génération, quoi.
Alors ça, c'est une super question que tu me poses, Cécile, parce qu'on me demande beaucoup sur les enfants. Tu sais, moi, les femmes que j'accompagne, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, elles sont... Sur la tranche d'âge, la plus jeune, elle doit avoir 37 ans, mais c'est pas. Sinon, c'est vraiment. Allez, 40, 60, tu vois, c'est vraiment cette tranche d'âge-là. Donc, en général, enfin, en général, il y a pas mal de femmes qui ont des ados, on va dire. Des jeunes enfants ou des ados. Et donc, il me demande, parce que en ce moment, apparemment, c'est un peu, voilà, le problème de concentration en classe, le problème d'hyperactivité. Enfin, il y a pas mal de problèmes avec les enfants dans le milieu scolaire et éducationnel. Donc, on me demande beaucoup, beaucoup de conseils sur ce sujet-là. Et moi, le meilleur conseil que je donne pour, bah, voilà, que ces ados-là puissent s'épanouir pleinement, librement, le mieux possible, c'est pas de leur donner de conseils. En vrai, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire de donner un conseil à quelqu'un, surtout quand on ne l'incarne pas.
Oui, d'accord.
Donc, moi, le genre, donc quelqu'un qui, par exemple, est en train de travailler sur sa confiance en soi parce qu'elle n'a pas confiance, et c'est OK de travailler sur sa confiance, et qui dit à sa fille, non, mais vas-y, il faut que tu aies confiance. Au mieux, se taire, en fait. Donc, tais-toi, travaille sur ta confiance et ton enfant paraît éponge. Au moment où toi-même t'auras dépassé un cap, ton enfant, par éponge, par mimétisme, dépassera son cap sans même que tu lui aies rien dit du tout. Donc, Moi, je suis. Les ados, en fait, il faut les laisser vivre. Il faut pas les, faut pas les mettre dans des moules. Il faut, au contraire, ils sont, tu sais, ils sont un peu là pour nous aider, hein. Ils sont un peu là pour, j'allais dire pour nous sauver, mais nous, on est une génération où on dépatouille un peu moyennement, quoi. Et eux, ils sont vraiment là pour nous montrer le chemin. Alors, à leur façon à eux, avec leurs âges, suivant l'âge qu'ils ont, avec leurs moyens à eux, tu vois. Mais il faut plutôt d'essayer de les conseiller et de les et d'avoir ce rôle un peu moralisateur ou même exemplaire. Non, non, au contraire, il faut être attentive à eux. Il faut être attentive aux signes qu'ils nous donnent, aux phrases, même aux mots qu'ils emploient, parce que ces mots-là, c'est des mots qui sont de leur bouche, venant de leur bouche, sont faits pour nous faire réagir et pour nous mettre sur le droit chemin. Sur le droit chemin, sur le meilleur chemin pour nous. Et ça, j'en suis fondamentalement convaincue. Et donc, moi, ma fille, la seule chose que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps avec des ados parce que je sais que c'est eux qui ont les solutions, tu vois. Il y en a deux. Tu vois, il y en a deux, Cécile, qui m'inspirent énormément. C'est les personnes âgées parce qu'elles en ont plus rien à foutre, tu vois. Elles sont là. Moi, j'ai lu pendant des mois et des mois, on pensait que j'étais dépressive et suicidaire à l'époque. Je lisais les 5 regrets des personnes en fin de vie, tu vois, de l'américaine. Et les personnes qui me voyaient avoir ça sur ma
La
table de
pauvre.
chevet, je me disais, ça va pas bien. tu vois, mais en réalité, pourquoi? Parce que je me dis que ces personnes-là, à l'aube voilà, d'une autre vie, c'est auprès d'elle qu'on a plein d'enseignements à tirer. Donc, moi, je suis fascinée par les personnes âgées et les jeunes, tu vois.
Oui, c'est long.
Entre deux, tout le monde se cherche. C'est les poulets sans tête qui courent dans tous les sens. Enfin, personne ne sait où il habite, tu vois. Donc, moi, je ne m'inspire pas du milieu. Je m'inspire des extrêmes, tu vois.
Ça m'amuse beaucoup parce qu'au monastère, de fait, j'ai beaucoup reçu, tu vois, quand je suis rentrée, des sœurs vraiment âgées. Tu vois, je suis rentrée à 23 ans et j'avais le lien le plus fort avec les sœurs qui étaient nonagénaires, en fait, qui, quelque part, comme tu dis, n'avaient plus rien à prouver et du coup étaient très attentives, en fait. Tu vois, je me souviens d'avoir été traversée un moment, c'était compliqué. Et j'ai dit à une sœur ancienne, est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est ma mère, ça ne va pas très bien. Puis elle me dit, oh, mais tu sais, je sais que c'est compliqué le début de la vie monastique, je prie pour toi tous les jours.
Ah.
Waouh, tu vois. Parce qu'il y a une qualité de présence finalement de ne plus avoir d'enjeu dans le faire. Et puis les ados, voilà, c'est le questionnement, quoi. C'est le
Les
qui?
ados, tu vois, c'est la fraîcheur.
Oui.
Avant que justement ils se prennent toutes les injonctions, la peur du jugement, les attentes qu'on a d'eux et qu'on voilà, nos angoisses, enfin tout, voilà. Avant qu'ils se forment leur carapace, tu vois, donc c'est vraiment je dis ado, mais en dessous aussi, évidemment, hein. C'est vraiment la fraîcheur et la spontanéité, et plus ils sont jeunes et plus ils sont reliés à leurs besoins primaires et à leur intuition, que après la société vient, voilà, déformer, alors qu'à cet âge-là, ils l'ont en accès direct, tu vois. Et les personnes âgées, parce qu'elles ont ce recul de ce qui est important, de ce qui l'est pas, et qu'on n'a pas, nous, quand on est le nez dans le guidon, et qu'on a l'impression que si on fait pas ça, le monde va s'arrêter, alors que non, si tu rentres de ton bureau à 17 h au lieu de faire des heures sup, la boîte va pas s'écrouler, t'inquiète pas, quoi, et le monde non plus.
Tu parlais beaucoup d'évolution que tu as fait, toi, en 20 ans, là, comme entrepreneuse. Quelles sont pour toi les clés, tu en as un peu donné, pour réussir comme entrepreneuse? Là, moi, j'ai entendu l'histoire de l'intuition, d'écouter un peu trust your gut, comme on dit en anglais, le fait de passer à l'action. Mais est-ce que tu vois des choses? Comment est-ce que tu passes justement d'un modèle à l'autre? Qu'est-ce qui fait que ça, que tu arrives à évoluer en fait en fonction peut-être des besoins, ou est-ce que c'est en fonction de toi? Quel est le critère, quoi?
Moi, je pense que, tu vois, je reprendrai cette idée du jeu. Moi, je suis très joueuse. Donc, dans le sens où, même quand j'arrive sur un nouveau marché, c'est un peu par défi parce que j'ai envie de me donner un défi et que j'aime jouer. Et le fait de m'imaginer en train de le faire me fait rire déjà, tu vois. Donc, si, à la base, et pour les carrières des salariés, c'est la même chose. Si tu prends pas ton job comme un jeu, tu vas pas réussir parce que sinon, c'est dur en réalité. Le salariat est dur et encore plus à un haut niveau. L'entrepreneuriat est ultra dur, mais ultra dur. Alors, celles qui disent, moi, je vais me reposer et je vais passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça me fait bien rire. Parce qu'elles ne savent pas du tout à quoi elles s'attendent, tu vois. Et la vie sur Terre est dure, en réalité. Voilà, quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de malheur, de douleur physique. Et donc, si tu n'as pas, et c'est bon là, c'est peut-être l'âme aussi qui est joueuse, et qui, si tu n'as pas ce côté-là du jeu, c'est trop compliqué, hein. Franchement, il y a quoi se mettre sous Prozac toute la journée, quoi. Donc, je pense que le propre de l'entrepreneur, c'est cette capacité-là à jouer, à vouloir relever des défis, à être un peu dans la compète, on va pas se mentir. Ça peut être compète vis-à-vis de soi, compète vis-à-vis des autres aussi, de se dire, tu sais, les challenges qu'on se met à deux, à trois. C'est toujours bien d'ailleurs d'avoir des partenaires comme ça avec qui tu parlais tout à l'heure d'échanges, mais alors c'est d'échanges bienveillants et tout ça, mais c'est aussi de l'échange de dire, ah, elle a fait ça, moi aussi, je vais le faire, tu vois. Donc cette histoire de compète saine, hein,
Oui, tout à
d'émulation,
fait.
on va dire, d'émulation, voilà, elle est hyper importante dans l'entrepreneuriat. Et puis, il faut pas aller inventer. Tu sais, moi, quand j'ai commencé au tout début, je me disais, non, mais Zuckerberg, il a trouvé un truc, moi, il faut que je trouve un truc aussi énorme, tu vois. Et ça, je pense que c'est l'écueil de beaucoup d'entrepreneurs, de se dire, ah, non, mais attends. Ça peut pas être aussi simple que ça, je peux pas commencer par un tout petit truc. Bah si, en vrai. Si, si. Les meilleurs entrepreneurs ont commencé par des tout petits trucs, tu vois. Même Airbnb a commencé par dire, bon, les gars, on n'a pas de quoi payer le loyer ce mois-ci, est-ce qu'on peut pas mettre deux, trois matelas dans notre salon et puis faire payer des gens chez nous parce qu'il y a un coloc pas loin et tous les hôtels sont pleins. Ça a commencé comme ça.
D'accord, je savais pas.
De même que GoPro, bon, c'est un exemple un peu boomer has-been, mais GoPro de mon temps, j'aimais bien la GoPro. Et pareil, le gars, il a commencé, d'ailleurs, il avait un échec entrepreneurial, il s'est dit non, mais je me barre, je vais faire du surf avec des potes. Et puis voilà, en faisant son surf, il aimait bien filmer un peu ses vagues. Et donc, il s'est bidouillé un truc avec du scotch sur sa planche. Les copains ont dit, oh, c'est cool, tu peux pas nous en faire. Le magasin sur place a dit, oh, mais c'est cool, tu peux pas nous en faire un peu mieux qu'on en vende. Et voilà, quelques années après, c'est devenu GoPro et tout le monde s'en a acheté, tu vois. Donc, l'entrepreneuriat, ça commence par des idées, parfois des idées à la con aussi, hein, mais ça commence par une envie, en fait. Une envie de se dire, je vais solutionner quelque chose, je vais aider quelqu'un, il y a quelque chose qui m'énerve, tu vois. Bon, bah, si ça t'énerve, qu'est-ce que tu ferais, toi? Bah, je ferais ça. Bon, bah, et la version la plus simple de cette idée, ce serait quoi? Le premier pas, justement. Au premier pas, le premier pas, ce serait ça. Bah, vas-y, fais ton premier pas, puis on va voir. Et ça commence comme ça. Et moi, alors, il faut qu'il. Alors, moi, j'avoue que j'avais plusieurs projets entrepreneuriaux. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai vu que j'arrivais pas à retrouver un job de salarié. Donc, aux États-Unis, j'avais étudié la naturopathie. J'avais fait une formation, j'avais complété une formation en France. En tout, j'avais fait 5 ans de naturopathie. Et je me suis dit, bon, ok, bah, je vais être naturopathe, quoi. Attends, on était en 2005, tu vois. Et là, j'ai des potes qui m'ont dit, des copains d'ailleurs, qui m'ont dit, non, C'est quoi ça, naturopathe?
C'est ça,
À aucun levier.
t'avais 15 ans d'avance là.
Emmanuel, à aucun levier. Tu fais tes 8 heures et après, basta, tu vois. Je dis, ah ouais, c'est vrai.
Oui, les mecs,
Parfois, il faut savoir s'entourer de gars qui ont l'esprit, tu vois, business. Je me dis, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas un job, en fait. Oui, tu es thérapeute, mais tu vois, dans un projet entrepreneurial, en plus, à l'époque, il y avait Andrew Veil aux États-Unis qui était ce monsieur barbu là qui avait un super empire de naturopathie. Je me disais, tu peux pas me faire moins qu'Andrew Veil en France, quoi. Tu y arrives, tu vois. Et donc, j'avais commencé un business autour de ça, mais à l'époque, ça a pris énormément de temps à décoller. Et en attendant que ce business que j'avais commencé à mettre en place démarre, j'avais ouvert un blog où je recensais les réseaux de femmes, tu vois. Et c'est ce blog-là que je faisais, mais juste pour passer le temps et où j'écrivais ce qui me passait par la tête de façon complètement débridée, qui a décollé.
Ouais,
Tu vois?
d'accord.
Et l'autre, je l'ai laissé tomber. Et donc, si tu veux, parfois l'entrepreneuriat, ça vient aussi là où tu t'y attends pas, tu vois. Mais il faut être dans l'action. C'est ça, parce que si j'avais été en face d'une feuille blanche en me disant, bon, alors, voyons les choses, je ne trouve pas de job salarié, faut que je lance une boîte. Bon, alors attends, je vais télécharger le businessplan.com, donc voilà, il ne sera rien passé, hein.
Mais c'est ça que j'aime bien avec toi. Je me souviens que les premières rencontres on s'est vu à Paris, c'était est-ce que vous avez une feuille de papier? Est-ce que vous avez une adresse email? Est-ce que vous avez un mail? Est-ce que vous avez un crayon? Et allez, on y va, vous lancez, vous avez des contacts, et puis vous lancez votre premier accompagnement comme ça en écrivant à tous vos contacts, quoi.
Ouais.
Et en fait, voilà, ju juste écrire un mail et puis dire bah, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous connaissez des personnes que ça intéresse, et puis on y va, quoi. Donc, alors là, voilà, c'est aussi une des choses que j'aime chez toi, c'est le côté très concret, pragmatique, mais tu as aussi le côté que tu appelles perché, qui est aussi sympathique. Tu n'as pas peur, voilà, qu'on parle spiritualité ou des trucs comme ça. Tu as lancé même un accompagnement chamanique. Comment cet aspect-là, voilà, perché, spirituel, pas conventionnel, a été et important pour toi sur ton chemin de femme entrepreneuse, on va dire?
Ben, en fait, tu sais, il y a toujours un petit décalage entre ce que je partage en entrepreneuriat et moi. Donc, entre, si tu veux, la face visible en vitrine et les coulisses. J'ai toujours, évidemment, il y a un temps de latence, tu vois, entre les deux. Et donc, je travaille toujours sur des dossiers en coulisses. Et puis, à un moment donné, je dis, non, mais là, c'est trop cool, le partage, quoi. Parce que sinon. Je peux pas être scindée en deux comme ça en permanence dans ma vie. J'ai besoin d'avoir cette espèce de complétude, tu vois, où ce que je vis moi personnellement, je puisse le partager. Et du coup aussi, le fait de le partager, ça me fait travailler aussi moi dessus. Enfin, voilà. Et donc, je me rappelle à un moment avoir rencontré, donc être en plein développement. Perché, enfin, c'est-à-dire oui, avec faisant énormément de stages sur avec le monde de l'invisible, sur avec des thérapeutes, avoir même un coach spirituel à un moment donné. Enfin, j'étais vraiment là-dedans et je faisais des programmes très
Très gros.
je suis mes programmes, c'est très rigoureux, hein, c'est très terre à terre, voilà, c'est très dans la matière, hein, il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Et à un moment donné, je vois un copain, un thérapeute, qui me dit, non, mais il faut un moment que les gens sachent que tu es complètement barré quand même. Parce que sinon, il y a une donnée de l'équation qu'ils n'ont pas. Pourquoi tu ne leur montres pas ce côté complètement à l'ouest, quoi, complètement, enfin, à l'ouest, dans le sens où complètement perché, voilà. Pourquoi tu ne partages pas ce côté-là? Je me dis, bah, attends, moi, tu sais, moi, je traite. Alors, j'ai une partie de cadres sup que j'accompagne. Et donc là, c'est des grosses boîtes. Et puis, la partie entrepreneuriale que j'accompagne. Et ce milieu-là, pour le point sur la partie salariée, grosses boîtes, ils ont besoin quand même d'être assurés à minima de savoir qu'ils travaillent à des échanges avec quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et puis, à un moment, tu sais, c'est trop, quoi. Et donc, Tu partages par bribes, tu sais, un peu comme en homéopathie, tu vas tout doucement, tu vois, tu dilues le truc, vraiment, tu dis, bon, allez, je vais dire un centième de là où j'en suis, tu vois. Et donc, voilà, tu commences, et puis tu vois que finalement, ça intéresse des gens. Ouais, et tu me dis, waouh, c'est incroyable. Et donc, du coup, tu t'en donnes voilà, les 2 centièmes, on voit ce que ça donne. Et de fil en aiguille, je me retrouve à un moment donné où je faisais des quotidiennes matinales, que j'appelais PPV Morning Show, donc PPV pour pulvériser le plafond de verre. Et je me retrouve avec finalement mes 3 thématiques. Le lundi, l'accompagnement, lundi et mardi, l'accompagnement pour les salariés. Le jeudi et le vendredi, l'accompagnement pour les side projects et l'entrepreneuriat. Et le mercredi,
Perché.
perché. Et en réalité, je me rends compte, donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans, et je me rends compte que le jour le plus couru de ces matinales, c'était le mercredi. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue, quoi, tout le monde est perché et personne n'ose le dire, en vrai. Tu vois? Et donc, bah, forcément, moi, quand après les rencontres font que j'étais amenée à faire un programme là-dessus, mais tu vois, à la base, ça correspond toujours à une partie de moi que je n'ai pas encore exprimée. Et qui, de la façon dont je travaille, à un moment donné, s'exprimera dans mon œuvre entrepreneuriale, tu vois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, voilà, je ne peux pas dire à l'avance comment elle peut s'exprimer, mais par alignement, cohérence, c'est, voilà, pour moi, c'est inévitable qu'elle s'exprime. Et donc, c'est pour ça que, alors, j'ai toujours ce temps de latence, évidemment, hein, aujourd'hui, peut-être que j'ai des choses sur lesquelles je travaille que je ne partage pas encore, mais c'est une histoire de temps, hein, après, voilà. Et donc, oui, parce que, tu sais, Cécile, il y a 3 choses pour réaliser, pour faire que les choses arrivent. Il y a évidemment le matériel. Donc, et moi, tu sais, je suis très concrète, je suis très dans l'action, et je pense qu'on est sur Terre pour être dans l'action, hein, on n'est pas là pour compter les éléphants roses, quoi. Donc, on est là, sinon on aurait choisi autre chose, tu vois. Mais quand même, on a choisi une incarnation avec de la matière, tu vois, il pleut, il fait froid, ça gratte, les pulls, voilà, je me rappelle des collants en laine petite, ça gratte, enfin, tu vois, bon, on est là-dedans, tu vois, on pleure, on rit, on se fait mal, on est dans la matière, donc il y a cette partie terre à terre qu'il faut traiter, et l'argent a aussi sa base qu'il faut traiter, très terre à terre. C'est-à-dire que si tu veux évidemment t'occuper de ton argent, il va falloir apprendre des choses très terre à terre. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième level, qui est le level mindset. Et tu te rends compte que malgré le fait que tu fasses tout bien, tu vois, moi, je dis, ouais, il faut faire des routines, il faut être persévérante, etc. Eh bien, parfois, tu dis, OK, ben, je fais tout bien, mais ah, je sens que ça patine quand même. Je sens que c'est lourd, je sens que ça résiste, et je ne sais pas pourquoi ça résiste. Et même si Emmanuel, elle m'a dit faut que je ne lâche pas, etc., parfois, je me dis, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, tu vois, ou je me demande si je suis sur la bonne voie du coup, parce que je vois pas que ça décolle le truc. Bon, bah à ce moment-là, c'est forcément qu'il y a une couche mindset, une couche émotionnelle, une couche croyance, tu mets ce que tu veux, qui est là et qui dit, bon, ok, tu as un palier, voilà, tu as un plafond de verre, exactement. Et ce plafond de verre, si tu vas pas un peu regarder sur le mindset et sur l'aspect émotionnel et les croyances, tu vas vraiment galérer, en vrai. Je ne dis pas que la personne qui travaille d'arrache-pied, qui vraiment se donne à 200%, elle n'y arrivera pas, mais je veux dire à quel prix, quoi. Tu vois?
Oui, puis enfin, je le vois par exemple pour moi-même, tu vois, je l'accompagnais gratuitement. J'ai travaillé 1 an et demi sur mes croyances limitantes en lien avec l'argent, quoi. Parce que pour moi, c'est comme si j'avais donné avant, j'accompagnais gratuitement, bon, pourquoi je me ferais payer, quoi. Et puis que finalement, j'ai découvert que, tu vois, la croyance, elle était liée au fait que la personne qui m'avait agressé enfant, c'est quelqu'un qui était très bien, tu vois, qui était dans l'abondance. Et donc finalement, l'image inconsciente que j'avais de l'abondance, c'était mon agresseur. Donc, j'ai pas envie de devenir une mauvaise personne. Donc, je préfère rester, ne pas me faire payer, rester dans la pauvreté quelque part, tu vois.
Alors, tu vois, Cécile, par exemple, tu aurais pu gagner beaucoup d'argent, mais vu que tu avais cette croyance, tu aurais pu t'en débarrasser, tu vois.
C'est ça, c'est ça.
Tu aurais pu, parce que tu aurais pu, hein, avoir des revenus conséquents, mais vu que tu avais un conflit, là, tu t'aurais trouvé un moyen pour saboter le truc à un moment, tu vois.
Et là, le sabotage, ça passait justement, tu vois, même par exemple pour ne pas sortir mon podcast, que j'ai mis vachement de temps à sortir, de pas y aller, de pas en fait, de pas passer à l'action. Et donc c'est vrai que ne pas travailler ses croyances limitantes, et eh ben c'est super freinant, quoi.
Voilà.
Parce que du coup, tu ne demandes pas le vrai prix pour tes prestations. Tu dis, bon, moi, d'accord, je vous le fais à 50 ou je ne sais pas quoi. Enfin, alors que, non, le vrai prix, c'est 150 euros. Donc, tu perds, en fait. Tu perds tout parce que
Donc,
tu ne fais pas attention à ça. Donc, travailler, voilà, l'aspect psychique, mindset, émotionnel, croyance, quoi, c'est important.
tu vois, c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, il y a toujours à minima ces deux niveaux. Le concret, hein, les plans d'action, etc. Moi, je suis aussi bien te dire ton LinkedIn, là, c'est de la merde, etc. Que, voilà, travailler sur effectivement tout ce qui crée les croyances. Et puis après, Cécile, il y a, et là, je parle à quelqu'un qui le sait pertinemment, il y a le troisième niveau. Et celui-là, il y a peu de gens le prennent en compte dans l'impact qu'il a sur tout le reste, en
Ouais,
réalité.
ouais, ouais, ouais,
Et le troisième niveau, c'est le niveau spirituel, slash énergétique, slash intuition, slash vibration, slash. Enfin, voilà,
ouais.
tout ce monde-là qu'on pourrait aller qualifier vulgairement d'ésotérique pour New Age, mais en réalité, parce que quand on dit spirituel, on y adosse forcément quelque chose de religieux, mais pas forcément. Ça peut être juste ta spiritualité, elle peut être juste très. Il y a un ordre, enfin, il y a une intelligence au-dessus et j'y crois, je ne sais pas ce que c'est exactement, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a des interactions avec le monde invisible et il y a tellement de personnes qui sont à même, notamment les chamans, d'avoir ces interactions que soit ils sont tous dingos et du coup, il y a beaucoup de dingos en liberté quand même, ou soit, voilà, il y a vraiment des choses à découvrir. Et donc, si on ne les découvre pas et si on reste aux deux premiers niveaux, ce qui est déjà bien, c'est vraiment déjà énorme, parce qu'il y en a qui restent au premier niveau. C'est quand même bien avec les deux, tu vois. Mais quand tu découvres le 3, bien, non seulement ça a des répercussions sur tout le reste, vraiment tout le reste, les choses peuvent aller beaucoup plus rapidement. Tu peux faire appel. Bon, je vois ce qu'on a fait avec le chaman, tu peux faire appel à tes guides, tu peux travailler avec eux en réalité. Tu peux dire, bon, allez, les guides, aujourd'hui, on se fait une petite réunion, voilà l'heure du jour, deux, trois conseils à vous demander. Enfin, voilà, tu peux vraiment accéder à une autre dimension qui est hyper facilitante, hyper. C'est pas. La vie va pas changer dans le sens où les épreuves que tu as passées, tu les passeras. Hein, le monde invisible n'est pas là pour te mettre un tapis de rouge non plus, mais il est là pour mettre ce qui est le mieux pour toi, voilà, t'orienter vers ce qui est mieux pour toi à ce moment-là. Donc, et savoir que tu t'as. Tout ça à ta disposition, il suffit juste d'apprendre. Enfin, juste, là, c'est du travail. Là, on redescend en bas de la pyramide. On doit réapprendre. Voilà, c'est un peu comme le sport, hein. Si, au départ, tu fais tes exercices, il ne se passe rien. Et puis, si tu les fais pendant 6 mois, à un moment, tu dis, ah, tiens, c'est cool, j'y arrive. Et bien, le monde spirituel, c'est un peu pareil. Au début, tu dis, non, mais c'est des conneries, il se passe rien, ça marche pas pour moi, pourquoi tout le monde n'y arrive et pas moi, etc. Et puis après, à force d'entraînement et d'humilité et de travail, etc., mais tu dis, waouh, ça marche et tout. Ben oui, ça marche, c'est juste que, voilà, et déjà, il faut y croire, parce que si tu crois pas, ben ça marche, mais si tu crois pas. Et deux, la réalité, c'est ce que tu crois, hein, c'est pas. Et de deux, il faut de l'entraînement aussi, en tout cas pour certaines questions de communication avec l'invisible. Et voilà, à force d'entraînement et ben, ça change la vie par le haut. Voilà.
Ouais, super. Merci, hein, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un voilà, qui est très concrète, voilà, et à la fois, et les deux à la fois, c'est pas toujours facile, parce que des fois on est très rationnel, on va dire, voilà, et du coup, toutes ces questions-là, ça fait peur. Ou des fois on est très spirituel, mais du coup, on est assez désincarné. Et d'allier les
J'ai eu
deux, c'est
beaucoup de
peut-être une des forces
difficultés.
comme ça peut-être de femme, justement, tu vois, d'allier ces deux éléments ensemble.
J'ai eu beaucoup de difficultés, Cécile, je dois te l'avouer, quand j'ai commencé à approcher cet univers-là, parce que moi, bon, tu as vu, j'ai tous les étages en bas. Et il est hors de question que je me mette à faire, tu vois, à me mettre en haut d'une colline et puis à passer ma vie à méditer sans faire des choses dans la matière, parce que moi, j'aime bien les projets, j'aime bien les équipes, j'aime bien réaliser des choses, tu vois, j'aime bien réaliser des choses ensemble. Et j'aime bien qu'on réussisse aussi. Parfois, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui vont dans ces univers-là parce que la réalité est trop compliquée.
Oui, d'accord.
Tu vois, et donc, qu'ils considèrent ces univers comme une fuite. Et c'est vrai que, évidemment, quand tu es en méditation, en alpha, et que tu vois un peu tout, que tu peux utiliser ton énergie pour te déplacer, pour ressentir, etc. Oh, c'est trop cool, voilà. T'as pas besoin de prendre aucune substance. C'est vraiment la vie, c'est top, tu vois. Et tu dis, bah, autant y aller le plus souvent dans cet état-là, tu vois. Mais en réalité, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui considèrent ça comme une fuite, bah, arrivent peu à matérialiser et sont dans l'inconfort matériel, pour le coup, tu vois, parce que elles s'en servent comme un échappatoire. Et elle n'arrive. Alors que pour moi, alors encore une fois, c'est peut-être un postulat, hein, mais moi, je considère qu'on est là sur Terre parce qu'on a des choses matérielles à réaliser et que le spirituel est là pour nous aider à réaliser ces choses matérielles. Tu
Super.
vois?
Il y a une bonne
Et pas.
articulation entre les deux, quoi.
Ouais. Et pas. Non, le matériel, il est trop dur. Et puis d'abord, il est trop dur. Rien. Et donc, voilà, je me fais mon stage ukulélé et comme ça va mieux. Mais le stage ukulélé, c'est pas la vraie vie si tu l'embarques pas avec toi quand
Voilà.
tu reviens, tu vois?
Ouais, super. Non, génial. Merci, hein, pour cette articulation. Je pense que c'est très important d'avoir les deux, quoi. Enfin, et des fois, les gens qui ne connaissent pas la vie monastique ont une idée qu'on est toute la journée en prière et qu'on n'est pas du tout dans le matériel. Alors que toi, tu avais fait un stage, je crois, à Solan.
Ouais, je peux dire, j'ai trimé, hein.
Voilà, donc en fait, enfin, c'est ça que j'aimais beaucoup dans la vie monastique, que j'aime beaucoup dans la vie monastique, c'est cet équilibre justement entre les différents aspects. C'est-à-dire on travaille ton âme, on travaille ta dimension spirituelle, mais aussi intellectuelle, et on est dans le concret, quoi. Je veux dire, quand tu fais un stage dans un monastère, tu comprends qu'en fait, c'est très concret, t'arrêtes pas de bosser, t'arrêtes pas de passer de prière à travail matériel et tout ça, et que ça n'arrête pas, quoi. Donc, c'est un bon équilibre, voilà. Mais c'est bien incarné comme entrepreneuse.
Et
Oui.
juste pour terminer sur le côté spirituel, c'est que pourquoi ça a fait sens aussi pour moi de le partager plutôt que de le garder égoïstement pour moi, ce que j'aurais pu choisir de faire. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, si ma vocation, c'est d'aider les femmes à monter et à donner le meilleur de ce qu'elles peuvent faire économiquement. Mais si tout ça est hors sol, alors c'est marrant parce que je parle hors sol, et en même temps je parle de spiritualité, pour moi c'est relié en haut et en bas, hein.
Oui, tout à fait.
Mais je me dis, à un moment donné, d'ailleurs le monde il est dans l'état où il est, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises hors sol, en réalité par des gens qui n'avaient aucune connexion au vivant, à l'invisible, et qui étaient juste avec leur tableur Excel. Et qui ont pris des décisions comme ça. Et ce monde-là hors sol, moi, il m'intéresse pas, hein. Moi, quand je dis les femmes changeront le monde, c'est parce que je me dis que les femmes ont cette capacité à se connecter au sol. Et aussi, moi, justement, pour la raison pour laquelle je les pousse à se connecter aussi en haut, c'est pour se dire qu'à un moment où elles seront à même de prendre des décisions, eh bien, elles auront des décisions connectées, tu vois, connectées avec la Terre et connectées avec le cosmos ou ce que tu veux. Mais en tout cas, des choses qui sont écologiques et pour elles et pour l'environnement. Du coup, quelle que soit la décision qu'elle prenne, puisqu'elle est connectée, elle ne peut pas aller dans le mur, tu vois. Et c'est comme ça que je dis, ben voilà, si on forme assez de femmes à la fois à s'émanciper concrètement, économiquement, et à la fois à être connectées, ben on est obligé d'inventer un nouveau monde qui sera en totale harmonie, tu vois. On ne peut pas être à côté de la plaque, comme on l'est aujourd'hui.
Ouais. C'est bien parce que tu fais un peu la transition vers la question finale qui est toujours la même pour mes invités. Je demande toujours une parole de vie. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'on a pu partager, qu'est-ce que tu as envie de donner aux femmes comme parole de vie?
Moi, je pense que, tu vois, on parle du lien. Tout ça, c'est au départ, si on revient, la genèse du truc, c'est le lien à travers le réseau de femmes. Et donc là, j'y rajoute le lien à travers le lien avec la terre et avec le spirituel ou le cosmos, ce que tu veux. Je pense que la parole de vie, c'est donc moi, j'exhorte les femmes à s'émanciper économiquement, tout en n'oubliant jamais, jamais, jamais sur le chemin de garder les liens avec leur sœur et à garder les liens avec l'univers.
Ouais,
Voilà.
super.
Ça sera ma parole de vie.
Alors, si vous voulez suivre Emmanuel, même Emmanuel a eu le courage pendant 3 ans, voilà, de publier 5 jours par semaine une petite vidéo de 10 minutes, mais c'est de l'or en barre, ces petites vidéos. Donc, c'est ce dont Emmanuel a parlé, le PPV Morning Show. Donc, il y a une chaîne YouTube. Donc, c'est facilement trouvable. Vous aurez les liens en description. Ton site, c'est toujours ppvbusiness.com ou est-ce que tu en as un autre?
Non, je ne le donne pas, ça c'est juste pour les personnes qui suivent mes formations. Mais sinon, sur LinkedIn, moi je
D'accord.
vois pas mal d'échanges sur
D'accord.
LinkedIn, évidemment,
D'accord.
c'est
D'accord.
un de mes médias
Premier.
premiers,
D'accord.
et sur
D'accord.
YouTube pour voir un peu ce que je fais. Mais si c'est pour échanger avec moi, ce sera sur LinkedIn.
LinkedIn, d'accord, bah très bien. Je vais mettre ton lien LinkedIn du coup. Et puis, si vous voulez découvrir Emmanuel de Visu, n'hésitez pas à aller voir PPV Morning Show. Donc, vous avez, je ne sais pas combien il y a d'épisodes, mais sur 3 ans, ça doit être énorme.
400, je ne sais plus combien on en a fait.
Donc, voilà, vous avez des ressources pour vous nourrir tous les jours 10 minutes. Ça peut être une solution de bonne année de se nourrir tous les jours avec une petite vidéo du PPV Morning Show pour pulvériser le plat de fond de verre. Bah, merci beaucoup Emmanuel, c'était
Un
très
plaisir,
précieux.
Cécile.
Et puis nous nous retrouvons en présentiel vendredi parce qu'on se voit aussi en vrai bientôt.
C'est un grand plaisir et longue, longue vie à ton podcast.
Dans cet épisode, tu as pu entendre le témoignage d'Emmanuel Gaillardi qui accompagne les femmes à pulvériser le plafond de verre en passant à l'action, en se connectant à leurs valeurs, à leurs dons et à leur spiritualité et en se mettant en réseau. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras les liens vers le LinkedIn et la chaîne YouTube d'Emmanuel. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ma plus grande peur en lien avec les finances, le surendettement. Pourtant, être capable de faire un prêt est un formidable effet de levier. D'ici là, bonne réflexion et buen camino!